Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Paroles d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Il est une vallée et aujourd'hui dans cette émission, nous allons plonger dans un cycle d'émissions autour de la question de l'eau. L'eau, sujet crucial, sujet hautement politique aussi, sujet brûlant, qu'on va aborder donc dans un cycle de 5 émissions qui commence aujourd'hui. 5 émissions qui prendront des formes différentes, qui aborderont la question sous des angles différents. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio Saint-Fé Pascal Moll, directeur de recherche à l'INRAE, dans une unité de recherche qui travaille sur la problématique de l'assainissement, c'est-à-dire du traitement des eaux urbaines, et aussi sur leur valorisation. Je vous propose un portrait. Et bonjour Pascal Moll.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus précisément que ce que je viens de faire ?
Bien sûr. Donc effectivement, je suis directeur de recherche dans une unité qui s'appelle Riversal à INRAE à Lyon, Lyon-Villeurbanne, dans laquelle nous travaillons sur ces questions de traitement des eaux urbaines. On reviendra peut-être sur la définition des eaux urbaines et de leur valorisation, parce que l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir valoriser les ressources, parce qu'on verra qu'il y a des ressources dans ces eaux usées. Moi, plus particulièrement, depuis 25 ans maintenant, je m'attache à surtout répondre aux problématiques des petites et moyennes collectivités au niveau national, y compris les départements d'outre-mer, hein, donc sur des contextes assez différents. Donc aussi bien en termes de traitement pour faire évoluer les performances et faire évoluer les technologies de traitement, mais aussi en termes de développement d'outils, d'aide à la décision finalement pour les politiques publiques, de manière à ce que les décisionnaires puissent avoir des choix un peu plus éclairés sur les différentes stratégies, les différents scénarios possibles de gestion des eaux urbaines. Et après, si vous voulez plus précisément encore, en termes de technologies de traitement, ma spécialité sont sur ce qu'on appelle toutes les technologies végétalisées, ce qu'on appelle aussi des solutions fondées sur la nature.
Merci pour toutes ces précisions. Et puis je vais préciser aussi, tant qu'on y est, que vous allez intervenir ce soir même, donc on est le 8 mars, à Cray, à la salle coloriage, à 19h, pour une réunion publique autour des eaux pluviales et des eaux usées. Vous pouvez juste nous en dire un tout petit peu plus ?
Oui, tout à fait. C'est l'association Rambon qui m'a demandé de venir intervenir sur la problématique effectivement de gestion de ces eaux pluviales et des impacts qu'elles peuvent avoir sur le système d'assainissement. Donc comment gérer ces eaux pluviales dans un milieu urbain de manière à éviter d'impacter le milieu et on verra ce soir d'apporter potentiellement d'autres services que uniquement la protection du milieu et les aspects sanitaires.
Alors vous travaillez, donc on l'a dit, hein, pour une unité de recherche qui se trouve à Lyon, mais vous travaillez dans différents endroits et puis aussi vous parliez aussi de l'outre-mer et puis vous êtes aussi et surtout habitant de la région.
Tout à fait, je suis déjà drômois d'origine, j'ai grandi dans la Drôme et je suis revenu habiter sur Cray il y a 12 ans maintenant. Et voilà, un choix personnel qui m'amène à faire du télétravail et des déplacements, de toute façon que ce soit à Lyon ou un peu partout sur la planète.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon globale comment fonctionne l'assainissement ? C'est quoi des eaux usées ? C'est quoi des eaux pluviales ? Comment on valorise tout ça ? Comment ça marche tout ça ?
Alors, En termes de définition, on va dire des types d'eau, donc les eaux usées, on va différencier les eaux usées domestiques qu'on produit chacun chez nous par nos différents usages et qui vont contenir donc notamment un certain nombre de polluants organiques, azote, phosphore, mais aussi ce qu'on appelle un peu les pathogènes qui peuvent être problématiques. Et puis après, des eaux, d'autres types d'eau qui vont être produites dans un territoire urbain, qui sont alors des eaux qu'on appelle de pluie, qui sont les eaux qui tombent sur les toitures, mais qu'on va collecter juste à la sortie des toitures. Dans ce cas-là, on appelle ça des eaux de pluie. Mais lorsqu'on parle d'eau pluviale, c'est un peu la subtilité, eh bien, ce sont ces eaux de pluie qui ont pu ruisseler sur les chaussées, sur différents supports imperméabilisés. Et qui vont, par ce biais, se charger aussi en polluants qui ont été déposés sur ces surfaces imperméabilisées. Et donc ça, c'est les trois types d'eau et qui vont potentiellement rejoindre le milieu avec différents chemins possibles, avec différents types de traitements, de niveaux de traitement possibles ou pas du tout. Donc on reviendra, je pense, un peu par là-dessus, sur les différents chemins. Mais donc, voici les trois types d'eau, ce qu'on appelle en gros produites dans un territoire urbain, donc c'est ce qu'on appelle les eaux urbaines, et qui, du coup, peuvent être gérées de manière complètement différente suivant les scénarios qu'on va choisir à mettre en œuvre.
Globalement, dans la vallée, comment elles sont traitées, ces eaux ? Qu'est-ce qu'on en fait donc de ces trois types d'eau ? Eau de pluie, eau pluviale, eau usée ?
Alors, c'est pas spécifique à la vallée, hein, mais c'est l'histoire d'un héritage, en fait, au fil du temps de la gestion un peu de ces types d'eau. C'est-à-dire que, initialement, on a cherché à évacuer ces eaux des milieux urbains pour des questions sanitaires. Et donc, ça remonte au baron Haussmann, c'est-à-dire qu'on s'est mis à faire des réseaux d'assainissement pour tout simplement les évacuer, les amener loin de la ville. Donc ces réseaux ont été faits il y a pas mal de temps, alors peut-être plus récemment dans les petites et moyennes collectivités, mais quand même ça date en termes de plusieurs dizaines d'années. Initialement, ces réseaux étaient ce qu'on appelle des réseaux unitaires, c'est-à-dire qu'ils allaient capter l'ensemble des eaux produites, qu'elles soient domestiques ou pluviales, sur une agglomération, pour les évacuer loin. Initialement, même sans traitement, c'était vraiment une question d'hygiène. Par la suite, ça a un peu évolué, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte des problématiques d'impact sur le milieu, et donc il y a eu la mise en place de stations de traitement des eaux usées, stations d'épuration, dont l'objectif était de traiter ces eaux de manière à ce qu'elles n'impactent pas le milieu récepteur. Donc on ne produit pas de l'eau potable. Ça reste, c'est une eau traitée, mais qui est censée ne pas impacter le milieu. Les cours d'eau, en grande majorité. Alors, au fil du temps, on a fait progresser ces niveaux de traitement, parce qu'on s'apercevait qu'il y avait quand même des impacts. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est donc ce qu'on appelle le système d'assainissement, qui est à la fois le réseau et la station de traitement, ont été dimensionnés à certaines époques, des époques différentes suivant les tailles des agglomérations. On a commencé par traiter les plus grosses agglomérations avant de venir aux petites. En même temps, il y a eu une urbanisation croissante, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vient en ville, ce qui fait qu'on imperméabilise les villes, et donc on va augmenter le volume d'eau usée domestique produit, et on va augmenter aussi les volumes d'eau pluviale produites dans ces urbanisations. Et on s'est retrouvé au bout d'un moment avec on se retrouve encore avec des réseaux finalement, enfin des infrastructures qui n'ont pas été dimensionnées pour les charges actuelles. Et donc ces réseaux unitaires qui captent l'ensemble des eaux par moment sont saturés. Dans ce cas-là, quand ils sont saturés, on a des débordements, soit maîtrisés par ce qu'on appelle des déversoirs d'orage, où on accepte que quand on est trop saturé, on déverse, mais du coup on déverse des mélanges d'eau usée domestique et d'eau pluviale dans le milieu récepteur sans traitement, ou alors des débordements non maîtrisés par des bouches d'égout, des choses comme ça qui débordent. Depuis, on va dire, une vingtaine d'années, les décideurs, et notamment les agences de l'eau qui financent ces infrastructures, ont fortement subventionné en fait des mises en séparatif des réseaux. C'est-à-dire qu'on va avoir des réseaux qui sont à la fois, enfin, d'une part pour les eaux usées domestiques uniquement, et d'autre part des réseaux qui vont être pour les eaux pluviales, avec l'hypothèse que les eaux pluviales ne sont pas polluées, et donc celles-ci, on peut les amener directement dans le milieu. Donc bon, déjà à l'époque, il y avait des études qui montraient que ce n'était pas forcément le cas, mais ça, en tout cas, c'est-à-dire que ces eaux pluviales pouvaient être polluées et amener des polluants dans le milieu. Mais en tout cas, ça a été la grande directive à partir des années, on va dire, 80-90, d'aller mettre en séparatif. Mais ça pose quand même des contraintes, c'est-à-dire que dans les infrastructures anciennes qui étaient en unitaire, c'est pas forcément évident systématiquement d'aller ouvrir toutes les rues et les canalisations pour mettre en séparatif toutes ces canalisations. Donc on se retrouve en France en général, en Europe, enfin dans tous les pays occidentaux qui ont développé ces infrastructures dans les années 80, avec des parties unitaires qui posent des contraintes fortes en temps de pluie. Quand on sait en plus qu'avec le réchauffement climatique, ces épisodes pluvieux peuvent être de plus en plus intenses, on va avoir des problèmes qui risquent de s'aggraver sur ces questions de temps de pluie, sachant que la réglementation demande à être assez stricte sur ces débordements, et ça va sûrement devenir de plus en plus strict dans les années à venir, parce que là, notamment au niveau européen, il y a une nouvelle refonte de la directive sur l'eau qui a tendance, en tout cas pour l'instant dans les discussions actuelles, à rendre les choses encore plus contraignantes sur les temps de pluie. Donc on sent bien qu'on va devoir agir fortement pour résoudre ces problèmes de temps de pluie, à la fois pour le milieu, mais on pourra le discuter par la suite aussi pour d'autres opportunités qu'on pourrait avoir là-dessus, et notamment préservation de la ressource ou du débit d'étiage des cours d'eau, etc.
Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, dans la vallée de la Drôme, par exemple à Cray, à Die, mais aussi dans les villages, on est sur de l'unitaire ou sur du séparatif ?
Alors il y a toujours un peu des deux, c'est-à-dire que dans les centres un peu historiques, généralement on est sur de l'unitaire, mais dans tout ce qui s'est développé par la suite, on va dire dans les années 90-2000, normalement, on doit être sur du séparatif. Après, il faut savoir que un réseau, ça vieillit. C'est-à-dire que même quand on le met en séparatif, au bout d'un moment, on maîtrise pas forcément avec l'urbanisation toutes les nouvelles connexions qui pourraient être mises sur un réseau ancien. Et puis, un réseau vieillissant, on peut aussi avoir, en période de nappe haute, en hiver, des eaux, ce qu'on appelle des eaux claires parasites, c'est-à-dire des eaux de nappe haute qui rentrent dans le réseau et qui créent des eaux claires parasites qui augmentent les volumes des réseaux. Donc, on a toujours une coexistence des deux actuellement dans les collectivités, avec une notion quand même de vieillissement qui est des réseaux qui est importante, sachant qu'un réseau, l'âge de vie d'un réseau, c'est une cinquantaine d'années. Mais qu'on ne renouvelle pas suffisamment les linéaires de réseau actuellement en France, de manière à s'assurer qu'au bout de 50 ans, on ait renouvelé les réseaux. Donc, de facto, on accepte de travailler avec des réseaux qui sont un peu fuyards.
Alors, fin 2022, il me semble que c'est plutôt à l'automne 2022, il y a eu des pluies à Cray, et il y a eu... beaucoup d'eau et de boue dans un quartier vers l'établissement scolaire Armorin. C'est lié à quoi ? C'est des coulées de boue qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans le réseau, ou c'est que ça a débordé ?
Alors, la boue, en fait, pour les questions d'inondation en milieu urbain, elles peuvent venir de différentes sources. On a effectivement... une part qui peut venir des réseaux qui saturent et qui débordent, y compris en milieu urbain. Donc ça sort par les tampons, en fait, des égouts. Mais on a aussi des inondations qui sont venues à du ruissellement, on va dire, agricole, sur des terrains peu perméables, pentus, comme on peut avoir ici sur les côtes, sur les collines. Du coup, ça peut créer des ruissellements qui vont forcément amener de la terre, donc de la boue, sur les points bas, là où où il y a la ville, notamment à Cré. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs, et effectivement, pour arriver à maîtriser ces différents facteurs, il faut travailler à la fois sur ces questions des eaux pluviales produites dans la ville, mais à la fois sur comment gérer les ruissellements qu'il y a en milieu agricole. Et donc, bah, l'enjeu, c'est toujours de retarder un peu cet écoulement, de ralentir cet écoulement, notamment sur les parcelles agricoles, en allant replanter des haies en contour de champs, etc., de manière à ralentir au maximum ces eaux.
Est-ce que ça signifie, tout ça, que dans la vallée de la Drôme, on a des débordements à certains moments et que les eaux usées se déversent parfois directement dans les milieux, donc dans la rivière, dans la Drôme?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et sur la ville de Cré, ça a été donc c'est des choses qui sont remontées par les maîtres d'ouvrage, hein, au niveau collecte, donc le réseau, mais aussi au niveau station. Donc les maîtres d'ouvrage font remonter au service de l'État, à la police de l'eau et au ministère, donc in fine au ministère, l'efficacité de leur collecte et de leur traitement. Et donc ça, c'est pas nouveau que l'État observe des non-conformités, parfois sur la partie traitement liée à ce déversoir en amont station, parfois sur la partie collecte en temps sec, et systématiquement sur la partie collecte en temps de pluie. C'est-à-dire qu'en temps de pluie, ça ne veut pas dire que ça déborde à chaque temps de pluie, mais que ça déborde de manière excessive sur certains déversoirs sur l'année.
Alors, vous êtes adhérent à l'association Biovallée et vous coportez en ce moment une étude de faisabilité autour de la réutilisation d'eau usée dans le cadre du TIGA, territoire d'innovation de grande ambition. Vous coportez avec les pépinières Vauvy et aussi avec le syndicat mixte de la rivière Drôme une étude de faisabilité qui porte sur trois stations de traitement des eaux, l'une qui se situe à Cré, l'autre à Alex et la troisième à Luc en Diwa. En quoi consiste cette étude? Qu'est-ce que vous y faites? À quoi elle peut servir?
Tout l'enjeu en fait de la réutilisation, là on parle de réutilisation des eaux traitées, des eaux usées traitées, c'est d'aller plus loin qu'un traitement et un rejet dans un milieu. C'est dire que dans cette eau traitée, il y a quand même des ressources. L'eau en elle-même qui peut servir d'irrigation, ou différents usages, on reviendra dessus, mais aussi potentiellement des nutriments. Et donc, plutôt que de rejeter cette eau dans un milieu récepteur, un cours d'eau qui n'a pas forcément besoin et qui est plutôt même sensible à ces nutriments, il peut être pertinent de réutiliser ces eaux, notamment en irrigation. Donc ça, c'est des discussions qu'on avait eues avec Jérôme Beauville à des pépinières, et puis quand Biovallée a monté son TIGA, on s'est dit, tiens, c'est intéressant de le mettre en œuvre dans ce cadre-là, et le SMRD et Biovallée ont été ont agréablement apprécié en tout cas cette initiative et sont partis dans le projet. Donc l'originalité c'était de ce projet, c'était déjà de travailler à l'échelle de l'ensemble du bassin versant de la Drôme et d'aller regarder là où c'était pertinent ou moins pertinent d'aller mettre en place une réutilisation de ces eaux traitées, de manière à préserver la ressource en eau, assurer aux agriculteurs un peu une ressource. Hein, on a vu que, notamment l'été dernier, et ça arrivera encore, qu'il peut y avoir des interdictions d'irrigation. Pouvoir utiliser de l'eau pour un agriculteur, c'est un peu une sécurité de la ressource, parce qu'elle est produite tous les jours. Et donc, on a fait cette étude à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et là-dessus, donc c'est en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle Ecophilae, qui est spécialisé un peu là-dessus, et qui a permis de faire ressortir un peu ce qu'on appelle des hotspots de potentiel de réutilisation. Et donc là, on est dans une phase maintenant où on essaye de préciser sur trois sites, donc Alex, Cré et Luc Andiwa, qui ont des particularités un peu différentes. Et donc c'est intéressant, mais de voir comment on pourrait effectivement réutiliser ces eaux, quel coût ça aurait, quelles sont les contraintes potentiellement réglementaires, quelles sont les contraintes de gouvernance, et comment mettre en place techniquement cette démarche. Donc l'objectif, on espère, c'est d'arriver in fine à avoir des réelles mises en œuvre de cette réutilisation sur le territoire.
Et est-ce que vous avez déjà des pistes, vous, Pascal Moll, dans votre tête, au regard de votre expertise, des pistes pour améliorer tout ça?
La problématique de la réutilisation, c'est de maîtriser les risques. Donc maîtriser les risques au point de vue sanitaire ou environnemental. On peut le faire de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut le faire d'un point de vue purement technologique. On peut mettre en œuvre des technologies qui permettent d'aller même pratiquement aller jusqu'à la création d'eau potable. Mais ça a un coût énorme et qui risque de faire capoter pas mal de projets de réutilisation si on veut aller vers là. Et il y a une autre manière de gérer les risques, c'est de les gérer pas forcément uniquement au niveau du traitement lui-même, mais également au niveau des pratiques derrière. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une eau traitée qui a encore un peu de pathogène, si on fait de l'irrigation par aspersion, évidemment, on a plus de chances de diffuser dans l'atmosphère des pathogènes. Mais si on fait du goutte à goutte enterré, on a moins de chances d'amener des risques sanitaires là-dessus. Donc évidemment, ces risques, il faut les maîtriser. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, soit des moyens très technologiques, soit des moyens où on contrôle les risques derrière par des pratiques. L'idée, c'est d'arriver à créer des schémas de réutilisation qui intègrent un peu l'ensemble, c'est-à-dire à la fois de la technologie et à la fois une maîtrise des pratiques derrière pour limiter les risques, que ce soit donc pour de l'irrigation de culture, mais on peut même imaginer aller plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, dans certaines villes, est-ce qu'on a besoin d'eau potable pour aller nettoyer les voiries? Est-ce qu'on a besoin d'eau potable pour nettoyer les voitures dans les lavages, les autolavages de voitures? Est-ce qu'on a besoin d'eau potable pour faire du flushing de toilettes, etc. Donc, il y a plein de possibilités de réutilisation. Chaque usage va demander une qualité d'eau différente, potentiellement, une maîtrise de ces risques-là, mais dans un contexte un peu de raréfication de la ressource en eau, on a quand même fortement intérêt à creuser toutes ces possibilités de réutilisation et donc tout ce qui est autour de l'économie circulaire de l'eau, de manière à optimiser son usage, en fait.
Alors c'est assez connu, hein, que l'eau des toilettes, c'est de l'eau potable. Comment ça se fait?
Historiquement, on a amené de l'eau potable dans les habitations, et l'eau est un moyen de transport, je dirais, des polluants émis dans les habitations, qui est assez pratique. C'est-à-dire que l'eau transporte gravitairement, et plus ou moins, en tout cas, des fois il faut pomper un peu, mais de manière assez peu chère, l'ensemble de ces polluants. Et donc, voilà, historiquement, on est parti sur ces approches-là, qui peuvent être remises en cause, effectivement, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau. Hein. Et notamment, je parlais que la partie des risques pathogènes et sanitaires était liée au FSS. Si on part sur une séparation à la source, notamment des eaux noires, ou même urine FSS, on peut séparer les sources et du coup limiter les risques et pouvoir valoriser plus facilement les différentes ressources. Par exemple, dans les urines, on va retrouver tout l'azote et le phosphore, facile à valoriser si on sépare les urines du reste des eaux. Dans les FSS, on a une grosse partie de la matière organique et des risques pathogènes. Si on les sépare et qu'on les composte derrière, on limite aussi les risques. Donc Ça ne veut pas dire que c'est la solution idéale à mettre en place partout, mais en fait, chaque contexte peut être pensé avec des scénarios différents de gestion de ces différents flux. Et ça, c'est un choix bien sûr politique. Le politique, c'est lui qui choisit, mais ça peut être aussi un choix de société, de voir comment, comment on souhaite ensemble gérer, valoriser, gérer les eaux, gérer les risques et valoriser les ressources.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience du côté justement des instances, mais aussi des citoyens, quant à la valorisation de la ressource en eau?
Ça va dépendre de quel niveau. C'est-à-dire que si on regarde au niveau national ou européen, parce que l'Europe guide quand même pas mal de réglementations. Enfin, l'Europe, c'est nous aussi. Hein. De toute façon, c'est les États membres qui déterminent les politiques européennes. Hein. Donc, en tout cas, au niveau européen ou au niveau national, ou au niveau des agences de l'eau, il y a des prises de conscience très fortes de ces intérêts-là. Et donc il y a des actions qui sont menées pour essayer de favoriser l'implémentation de ces approches-là. Notamment, il y a la réutilisation, il y a une volonté d'augmenter considérablement la réutilisation des eaux traitées en France, parce qu'on est sacrément en retard par rapport à d'autres pays qui nous entourent. En France, on réutilise moins de 1% des eaux usées traitées, alors qu'il y a d'autres pays, comme en Italie ou en Espagne, où on est déjà plutôt autour de 12-15%. Et si on va plus loin en Israël, c'est pratiquement 100% des eaux usées traitées qui sont réutilisées. Mais ils ont d'autres problèmes liés à la ressource en eau que ce qu'on peut avoir nous. Donc les consciences, elles sont là. Les citoyens, je dirais qu'il y a une partie de la population qui en a conscience, mais je pense que ça va venir de plus en plus parce qu'on va avoir de plus en plus de problèmes de ressources en eau. Donc forcément, plus on est proche du mur, plus des gens le voient. Et par contre, au niveau des collectivités, ça va dépendre fortement d'une part de la couleur politique de la collectivité et d'autre part de la taille de la collectivité. C'est-à-dire que quand on est sur des très grosses collectivités, on a des services, on a des bureaux d'études internes dans les communautés de communes, alors que quand on est sur des petites collectivités, on a plus de mal à aller innover et chercher les compétences à l'extérieur. Donc il y a des dynamiques différentes sur le territoire national là-dessus.
Et quand vous parlez de couleur politique, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Par exemple, nous, on travaille beaucoup depuis, vu qu'on est sur Lyon, plusieurs dizaines d'années avec la métropole de Lyon, enfin à l'époque, c'était pas une métropole initialement, mais depuis que la métropole est passée, la ville et la métropole sont passées écologistes à Lyon, il y a une politique clairement différente sur ces questions-là. Clairement différente, une ambition clairement différente. Alors, c'est pas que la couleur politique en elle-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, quel que soit le bord politique, des gens qui sont sensibles à ces approches-là. Mais comme le politique est décideur, s'il n'est pas dynamique sur ces questions-là, ça n'avance pas.
Et vous parliez tout à l'heure cette étude de faisabilité que vous menez sur trois stations de traitement. Il y en a une qui concerne la 3CPS. Une autre qui concerne la CCVD, une autre qui concerne la mairie de Luc-en-Diois. Vous sentez que ces collectivités-là sont partie prenante vraiment des projets ?
Elles sont toutes intéressées effectivement par cette approche, dans la mesure où on sent qu'il y a des problèmes sur la ressource en eau qui augmentent. Donc sur Alex et Cré, c'est quand même fortement aussi lié avec le fait que c'est un territoire fortement agricole, enfin toute cette plaine à l'aval de Cré est irriguée. Donc il y a aussi le syndicat d'irrigation hein, de la Drôme qui est partie prenante dans ces discussions-là. Et donc tout le monde voit l'intérêt de sécuriser un peu cette ressource-là. Donc je dirais que c'est une approche d'une vision de l'enjeu sur le territoire et de l'activité économique qui en découle. Sur Luc en Divois, donc effectivement c'est une mairie, c'est plus petit, il n'y a pas les mêmes services, mais il y a un intérêt aussi qui est peut-être, j'espère ne pas les choquer, mais plutôt sur un bon sens agricole en disant oui, j'ai de l'eau traitée, si elle peut servir et si c'est mieux, autant qu'elle serve. Et donc c'est plutôt bien perçu, mais on peut-être penser que les portes sont ouvertes, mais que l'implication ne sera pas la même que sur les syndicats de communes 3CPS et CCVD.
Le TIGA permet de financer cette étude. J'imagine que c'est une étude qui va être menée sur un certain nombre d'années. Et après ?
Eh bien, donc, dans le cadre du TIGA, ce qu'on avait, ce sur quoi on s'était engagé, c'était d'arriver sur une étude de faisabilité assez précise sur certains sites, donc là, les trois sites qu'on a cités. L'idée étant derrière, hors TIGA, d'aller jusqu'à la réalisation ces approches de réutilisation, mais là en allant chercher des financements autres, et notamment à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui pourra évidemment cofinancer ce type d'approche parce que ça les intéresse aussi. Quoi.
Est-ce que vous êtes optimiste concernant toutes ces questions?
J'essaye de l'être, en tout cas moi c'est ce qui me motive dans mon travail en général. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités, il y a plein d'innovations, il y a plein de façons de faire les choses. Et effectivement, nous, dans la recherche, on est souvent 10-20 ans en avance par rapport aux pratiques. Donc il y a des moments un peu où on se dit, c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Mais on trouve aussi des territoires qui sont intéressés par l'innovation et donc ça c'est motivant et sur ces approches-là c'est d'autant plus motivant qu'on est sur des actions qui sont aussi pluridisciplinaires, c'est-à-dire que on a parlé, mes spécialités sont sur les aspects un peu vraiment technologiques et un peu scientifiques, mais quelque part sur ces questions de gestion des eaux en milieu urbain, ça touche tout le monde et on voit qu'on peut du coup associer des approches économiques, des approches participatives, des approches urbanistiques et c'est très enrichissant, c'est très motivant, mais ça nécessite effectivement parfois de changer les pratiques et donc ça nécessite parfois de temps pour que les choses se fassent.
Est-ce que c'est possible pour les auditrices et les auditeurs qui s'intéressent au sujet d'avoir accès à des ressources, à des documents, en savoir un peu plus sur ce projet-là, cette étude de faisabilité?
Je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse dans le cadre de cette action-là, c'est finalement une réunion publique pour présenter un peu toutes ces démarches. Donc pour l'instant, c'est vrai que les discussions ont lieu avec les différents acteurs, que sont les maîtres d'ouvrage, les exploitants, les syndicats d'irrigation, le SMRD, etc. On s'est pas encore forcément ouvert au grand public, mais il faudrait qu'on le fasse, parce que c'est effectivement c'est important. Après, sur les questions d'assainissement général, il y a un groupe national qu'on a créé il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle le groupe EPNAC, E-P-N-A-C, qui est sur l'assainissement des petites et moyennes collectivités en France. Donc, si vous faites www.epnac.fr, vous verrez qu'il y a beaucoup de documentation libre d'accès sur les questions de traitement des eaux.
Alors, je rappelle aussi que vous allez intervenir ce soir à Cray pour une réunion publique, publique organisée par l'association Rebond, autour des questions de comment valoriser les eaux pluviales ou comment stopper le déversement d'eau usée dans la Drôme. C'est à la salle Coloriage et c'est à 19h.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter en lien évidemment avec cette thématique de l'eau, du traitement des eaux dans la vallée de la Drôme?
Dans la vallée de la Drôme en particulier, c'est important, il va y avoir, je pense qu'on ne pourra pas trop y échapper, des besoins de préserver cette ressource, aussi bien en qualité qu'en quantité. Et au regard des différents enjeux économiques qu'il y a autour de l'eau dans la vallée, que ce soit en agriculture ou pour le tourisme, ou tout simplement pour l'alimentation humaine, il va falloir s'y intéresser fortement. Et après, de manière générale sur ces questions d'eau, et d'eau urbaine en particulier, je dirais que là aussi, c'est intéressant que les citoyens prennent part au débat, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs scénarios possibles. Et donc derrière, c'est un choix. Quelle stratégie on veut développer? Et cette stratégie-là, si elle est décidée en commun avec les citoyens, elle a plus de chances d'être acceptée. Et c'est un bon moyen de retransformer un peu les villes, j'en parlerai un peu ce soir, les villes dans lesquelles nous habitons et dans lesquelles nous avons envie d'habiter. Donc, prenez part au débat. Pour moi, une action importante.
Merci Pascal Moll. Je rappelle que cette émission Il est une vallée est diffusée sur Radio Saint-Ferréol, mais aussi sur Radio Diwa. Merci beaucoup d'être venu à la radio. Rediffusion demain matin, 8h, sur Radio Saint-Ferréol. Si vous écoutez demain matin, évidemment, la conférence de ce soir sera passée. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci Pascal Moll.
Merci à vous.
Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Paroles d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.